Nous voici réunis toujours dans le chapitre 22 de Matthieu. On avait lu il y a deux dimanches de ça la parabole des invités discourtois qui refusent, qui déclinent l'invitation du Seigneur à entrer dans son royaume, car les noces, c'est jamais que la nouvelle alliance, célébrée dans le sang de Jésus, et puis l'impôt à César pour tendre un piège. Et voici un autre piège qu'on ne détecte pas tout de suite. Jésus, lui, évidemment, le détecte immédiatement. En quoi y a-t-il un piège? Pour lui tendre un piège, il lui demande quel est le plus grand commandement dans la loi. C'est une tentation, c'est une mauvaise perche qui est tendue à Jésus pour qu'il choisisse un des commandements qui lui plaît le plus. Son auditoire spécule. Mais parce que ce sont des pharisiens, des opposants, des scribes, là c'est un scribe d'ailleurs, son auditoire donc spécule sur le fait qu'il a des intérêts humains, qu'il a envie d'utiliser toute cette puissance qui est entre ses mains, eh bien pour créer un nouvel ordre ici-bas, ici et maintenant, dans la société de cette époque, en Palestine, un révolutionnaire en un mot. Bref, on l'invite à choisir un commandement secondaire. Secondaire, ça ne veut pas dire pas important, ça veut dire que ce n'est pas le premier. Un des plus petits commandements, en quelque sorte. Obéir à Dieu, je ne sais pas, ça pourrait être ça. Enfin, peu importe. Jésus, lui, ne tombe pas dans le panneau. Des commandements qui lui sont proposés dans l'Écriture, eh bien, il voit tout de suite ce qui est important. Vous voyez, si on choisit un commandement, même tout à fait légitime, de l'Église, du Seigneur, mais au détriment du premier que Jésus nous signale, eh bien, on perd en quelque sorte l'esprit de la loi. Par exemple, si je mets la charité fraternelle comme premier commandement, eh bien, la charité fraternelle n'a plus d'aliment. Il n'a même plus de justification. Pourquoi devrait-on s'aimer les uns les autres? Dans l'Écriture, et Jésus le manifeste bien, c'est parce qu'il faut aimer Dieu d'abord et les projets du Seigneur, et que ces projets, c'est la création précisément, et celle de l'humanité, tout particulièrement. La loi, faire l'aumône, si vous mettez ça en premier rang, et s'il n'y a pas l'amour de Dieu dans le fait de faire l'aumône, donc de pratiquer des œuvres de charité, on tombe finalement dans un culte à mammon, un culte à l'argent. On s'imagine dès lors que le salut, c'est distribuer de l'argent à tout le monde, et que ça suffira pour que le monde soit beau, en paix, harmonieux, quasiment paradisiaque. On voit bien que c'est complètement faux. Mais c'est toute l'histoire des années 60 avec le libéralisme, où des gens, profitant de ce libéralisme, se sont enrichis et ont cadenassé complètement en essayant de dynastiniser, pardonnez-moi le néologisme, mais de pérenniser, voilà c'est le mot exact, de pérenniser leur possession et à travers leur descendance aussi. Et cadenasser, ça veut dire empêcher les autres d'y toucher, hein. Tous les commandements secondaires sont bons, mais il y a un ordre dans la Bible. Cette notion d'ordre, le Moyen-Âge chrétien l'avait bien compris. Les modernes n'y comprennent plus rien. Et c'est souvent pour ça qu'il y a tant de confusion dans l'Église. L'ordre, c'est comme un bâtiment, comme cette pierre d'angle dont parle Jésus. Si vous enlevez la clé de voûte, d'un seul coup, c'est toute la voûte qui vous tombe sur la tête, parce qu'elle tient tout. C'est pareil pour le premier commandement. C'est celui qui tient tous les autres. Si vous l'enlevez, pas forcément pour le nier, mais juste pour le déplacer, hop, c'est toute la voûte qui s'écroule, la voûte des commandements du Seigneur. L'ordre, c'est ça. Il y a la hiérarchie dans le bien, dans le bon, dans le vrai. Et si on brouille ça, l'ordre, donc, si on met du désordre, donc, à l'intérieur des commandements que Jésus reprend du Deutéronome, du Décalogue, dans la loi, mais aussi dans les prophètes, une loi appliquée, concrète, eh bien on perd l'esprit de la loi. Et on perd la logique de la foi. Et c'est pourquoi Jésus ne tombe pas dans le piège. Il sait très bien qu'il y a un piège, mais vraiment sournois dans cette question. Et évidemment, lui ne peut pas tomber dans ce piège. Et il nous invite à suivre son exemple, à méditer sur l'ordre des commandements, précisément. Donc, sa réponse, c'est une synthèse merveilleuse. Il ne récite pas le décalogue. Et non, pas du tout. Il résume par le premier commandement, tout simplement, qui apparaît précisément dans le décalogue. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Mais dans certaines versions, c'est de toute sa force aussi. Et ça, c'est vraiment le premier commandement qui tient tous les autres. Et dans notre vie concrète, il en va de même. Si on met l'action, quelle qu'elle soit, colorée par quelque vertu que ce soit, en premier, eh bien notre action va s'essouffler. Et on va se décourager, et on va déprimer, et finalement on perdra la foi. Bêtement, puisque c'est une question de désordre, il suffisait de regarder les choses dans l'ordre. Aimer Dieu plus que soi-même, ça c'est vraiment la vision harmonieuse de la foi et de la loi telle qu'elle la transmet. La loi, on peut la lire comme des commandements, des interdits, comme on dit, une série d'interdits, et on n'y comprend rien. La loi, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce que la loi manifeste, sous forme d'interdits, mais ce n'est pas des interdits. C'est idiot de dire ce sont des interdits, c'est réducteur d'emblée. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni les biens de ton prochain. Un interdit. On est libre, on veut une société libre, on ne veut pas d'interdit. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ces interdits-là sont fondés sur l'amour, pour permettre à l'amour de s'épancher, de se développer dans le monde, dans les familles, bien sûr, mais partout dans la société. L'interdit, c'est quelque chose, c'est comme la liberté, c'est quelque chose qui n'a pas de sens en tant que tel. L'amour de Dieu, plus que soi-même, donc une confiance aveugle dans la révélation que Dieu nous fait sur notre nature et sur la manière dont nous devons la gérer, eh bien c'est ça qui fonde le premier, le grand commandement. Et à partir de là, eh bien tous les autres commandements s'organisent, s'auto-organisent en quelque sorte, on n'a même pas besoin de faire d'efforts. Toute la vie vertueuse s'organise dans notre vie spirituelle. Et c'est pourquoi Jésus se contente de dire, eh bien, qu'il y a un second commandement, c'est aimer le prochain comme soi-même. Et avec ça, il résume, il récapitule vraiment tout. Il ajoute une chose, hein. La première chose et la seule chose qui lui était demandée, c'est quel est le grand commandement. C'est l'amour de Dieu, le grand commandement. À travers les trois instances de notre âme, intelligence, volonté, amour et persévérance. Et Jésus ajoute ce second commandement parce qu'il veut il veut pas réserver à Dieu toute la foi. Vous voyez, il y a une religion qui n'aurait pas de morale en quelque sorte. Jésus équilibre les choses en disant que certes le premier commandement c'est l'amour de Dieu plus que soi-même, mais c'est aussi un qui lui est semblable, dit-il, c'est le second commandement, aimer le prochain cette fois-ci comme soi-même, pas plus que soi-même. Il y a des idéologies qui prétendaient, elles se contentaient de prétendre, elles ne le réalisaient jamais, qui prétendaient aimer le prochain plus que soi-même, à savoir que la collectivité devenait une sorte de Dieu à laquelle il fallait sacrifier même son individualité. C'est ça, aimer le prochain plus que soi-même. Et ça ne marche pas non plus. C'est un désordre, là encore. La manière d'être ordonné dans l'amour du prochain, c'est d'aimer le prochain, mais comme soi-même, précisément. Alors, un commandement semblable, ça ne veut pas dire égal. Il est seulement semblable, c'est-à-dire qu'il procède de la même logique. Et quelle est cette logique, si ce n'est pas un commandement égal au premier? Ça veut dire qu'il vient du premier, il procède du premier commandement, il est fondé sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Mais comme il lui est semblable, eh bien il est fondé sur l'amour, et il ne se comprend que de cette façon-là. Alors j'en viens maintenant à quelle est la vocation de l'homme sur la terre? Construire un monde à son image? Assurément pas, on ne vit pas assez longtemps pour ça. Et puis c'est construire le monde à son image, c'est réservé à quelques milliardaires. C'est pas nous qui pouvons. On peut le faire peut-être dans son jardin. Hein. Oui, je suis un peu absolu là en parlant de la puissance financière. Après tout, je peux construire mon monde dans mon jardin et dans ma maison totalement à mon image. Eh ben, j'aurais passé ma vie à faire ça et puis après, je l'emporterai pas dans la tombe, ni la maison, ni le jardin. Qu'est-ce que j'aurais fait finalement? Ben, pas grand-chose. Donc, c'est l'amour qui est notre vocation. L'amour de Dieu d'abord. Parce que sans l'amour de Dieu, on peut pas aimer. C'est lui qui est notre réservoir inépuisable d'amour. Mais c'est l'amour de Dieu, du prochain, des deux commandements. Voilà notre vocation. L'amour, c'est le cœur de la vie, on le voit bien dans la famille. Et il ne faut pas perdre les familles, justement. Il faut aimer vraiment ses parents, il faut vraiment aimer ses frères et sœurs. C'est très important. Sinon, ben, le cœur s'éteint, le cœur il se durcit, il ne peut plus respirer. Donc l'amour, c'est vraiment c'est ce qui donne à la vie tout son parfum. Et quand, là où il n'y a pas d'amour, à savoir, prenez dans certaines entreprises qui sont tellement rudes dans leur rythme et dans leur but, dans leur finalité. On trouve beaucoup de lieux sans amour sur la terre. Ça n'engendre que la mort, l'infécondité, l'infertilité sous toutes ses formes. Ça n'engendre que le mal et les ténèbres. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour et que l'entreprise en question ou l'institution en question, eh bien, n'a pas du tout l'amour comme objectif, même pas secondaire. La gratuité est un fruit d'amour, et c'est l'antidote justement contre toutes les tentations du monde qui voudraient nous écarter du premier et du second commandement que Jésus nous présente. L'amour, c'est la seule chose qui mène au salut, c'est la seule chose qui nous fait trouver grâce auprès de Dieu. Donc, ne soyons pas, calculateurs en termes d'amour, hein. Soyons généreux au contraire. Car l'amour est plus fort que la mort, dit l'épouse du Cantique des Cantiques, d'une manière totalement prophétique et si profonde. Les deux commandements, c'est l'esprit de la loi et des prophètes. Pas seulement de la loi en sens d'une théorie. Pourquoi a-t-il ajouté des prophètes? Parce que les prophètes l'avaient mis dans leur vie. Parce que les prophètes prêchaient cette valeur d'amour, précisément, à travers tout ce qu'ils pouvaient dénoncer. Amos dénonce l'égoïsme des riches, Isaïe dénonce l'orgueil des puissants, etc. etc. Mais d'autres dénoncent le paganisme du peuple et sa course à l'hédonisme sous toutes ses formes. Mais peu importe, à travers ça, c'est toujours le manque d'amour qu'ils prêchaient et qui animait leur prédication. Alors voilà, sachons comme Jésus retrouver l'ordre des choses de la foi, sachons comprendre que cet ordre est d'une importance fondamentale et mettons-le en pratique dans nos vies.